Bonjour à chacun. Il semblerait dans notre série sur Gédéon qu'à chaque fois que nous pensons « cette fois-ci, c'est la bonne », le combat contre Madian va pouvoir enfin avoir lieu, eh bien, il se passe toujours autre chose. Il reste toujours une étape à franchir, un détail à régler, et c'est encore une fois le cas ce matin. Face à la menace de Madian qui arrive dans le pays pour la 8e année consécutive, Gédéon a mobilisé les tribus environnantes et 32 000 hommes ont répondu à l'appel. Mais alors que les deux camps se font face et que la confrontation va être imminente, Dieu va procéder à quelque chose de complètement inattendu. Et je vous invite à le découvrir, à découvrir de quoi il s'agit en lisant avec moi le récit de ce matin. Nous allons tout d'abord lire les 8 premiers versets. Il s'agit de Juges au chapitre 7. Nous allons lire les versets 1 à 15 au total, mais pour commencer, les versets 1 à 8. Je lis dans la Nouvelle Bible Second, Juges, chapitre 7, versets 1 à 8. Yérub-Baal, c'est-à-dire Gédéon, et toute sa troupe se levèrent de bon matin et dressèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Israël pourrait s'en vanter à mes dépens et dire, « C'est ma propre force qui m'a sauvé. » Maintenant, proclame ceci en présence de la troupe, je te prie, que celui qui a peur et tremble reparte, qu'il s'en aille de la région montagneuse, du Galad. 22 000 hommes parmi la troupe repartirent. Il en restait 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, « La troupe est encore trop nombreuse. Fais-les descendre vers l'eau, et là j'en ferai le tri pour toi. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas. » Il fit donc descendre la troupe vers l'eau. Le Seigneur dit alors à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le chien, place-les à part, et de même, tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Tout le reste de la troupe se mit à genoux pour boire de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai. C'est par eux que je te livrerai Madian, que tout le reste de la troupe s'en aille, chacun chez soi. » Ils prirent les provisions que la troupe avait en main, ainsi que leurs trompes. Puis il renvoya tous les hommes d'Israël dans leurs tentes, ne retenant que les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Le premier point de notre plan s'intitule « La réduction des effectifs ». On se croirait presque devant un point à l'ordre du jour d'une organisation syndicale face aux agissements de sa direction. Pour bien comprendre la mesure, ou pour bien prendre, la mesure de ce qui se passe dans notre texte, il faut commencer par poser quelques chiffres. Nous l'avons dit, ceux qui ont répondu à l'appel de Gédéon sont au nombre de 32 000. Des hommes peu aguerris, certainement, et surtout affaiblis par les 7 années de privation infligées par Madian. En face, les hommes de Madian. Madian dont il est dit au verset 12, « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de criquets. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. » Et nous apprenons au chapitre suivant, au chapitre 8, verset 10, que le nombre exact des Madianites était de 135 000. Quelle vue terrifiante cela devait être pour les Israélites, pour les 32 000 Israélites qui s'étaient ralliés à Gédéon. Notons que la source de Harod, qui est mentionnée au verset 1, signifie littéralement en hébreu « la source du tremblement ». Et une des hypothèses ici est que ce nom a été donné par la suite pour rappeler l'appréhension, le tremblement des Israélites à la vue d'un ennemi aussi nombreux, comme cela est indiqué un petit peu plus loin au verset 3, quand Gédéon renvoie le peuple, il les renvoie en disant que celui qui a peur et qui tremble repart. Pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que le rapport de force ne joue pas en faveur d'Israël. 32 000 Israélites, 135 000 Madianites et compagnie, cela fait grosso modo un rapport de 1 pour 4. Non, le rapport de force ne joue pas en faveur des Israélites. Et que fait Dieu ? Il demande à Gédéon d'appeler à la rescousse d'autres tribus pour renforcer les effectifs. Non. Il décide qu'Israël est trop nombreux et qu'il faut réduire les effectifs. Alors, ça ne change pas sur mon écran, donc voilà. Verset 2, le Seigneur dit à Gédéon, « Ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. » Et c'est ainsi que Gédéon va proclamer, selon les instructions de Dieu, que celui qui a peur et tremble reparte, qu'il s'en aille de la région montagneuse du Galaad. Mais que fait Dieu ? C'est incompréhensible. C'est illogique. C'est aux antipodes de la raison, c'est même suicidaire. C'est envoyer Israël, pardonnez-moi l'expression, au casse-pipe. Seigneur, ne vois-tu pas qu'Israël est déjà en sous-effectif ? Qu'il y a 4 fois plus de Madianites que d'Israélites ? Pour faire la guerre des craintifs et des peureux, il y en a toujours. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome au chapitre 20, verset 8, nous trouvons une instruction invitant les Israélites, les peureux Israélites, à rentrer chez eux au moment de faire la guerre. Afin, dit le texte, ouvrez les guillemets, qu'ils ne fassent pas fondre le cœur de leurs frères. Qu'ils ne fassent pas fondre le cœur de leurs frères. Autrement dit, afin qu'ils ne contaminent pas les autres avec leur peur. Il y a une certaine sagesse dans cette mesure. Oui, des craintifs et des peureux, il y en a toujours, mais là, la proportion est vraiment très importante. Nous lisons à la fin du verset 3, « 22 000 hommes parmi la troupe repartirent, et il en restait 10 000. 32 000 moins 22 000 égale 10 000. Il reste maintenant 10 000 hommes avec Gédéon. Mais en face, dans le camp des Madianites, il y en a toujours 135 000. Et donc le rapport de force est passé de 1 pour 4 à 1 pour 13. On dit parfois à raison, quand nous ne comprenons pas quelque chose, que les voies de Dieu sont impénétrables. Et c'est bien ce que nous pourrions dire ici. Et j'imagine assez facilement la perplexité et le désarroi de Gédéon dans cette situation. Son moral devait être littéralement dans les chaussettes, ou au ras des pâquerettes si vous préférez. Mais Gédéon n'est pas encore au bout de ses surprises. En effet, Dieu n'en a pas encore fini avec le dégraissage de ses troupes. Et c'est ainsi que nous lisons au verset 4, « Le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore trop nombreuse. » Encore trop nombreuse ? Mais que cherche le Seigneur ? Cherche-t-il à faire gagner Israël ou à le faire disparaître à jamais ? D'un point de vue humain, ce qui est en train de se passer est complètement insensé et surréaliste. Il y a quand même en face 135 000 Madianites. Mais Gédéon obéit et fait descendre ses troupes au bord de l'eau. Et là, selon les instructions de Dieu, un tri va s'opérer sur la manière dont les hommes boivent de l'eau, sans doute de la rivière qui sort de cette source de Harod. D'un côté, il y a ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ils sont au nombre de 9700. Et de l'autre, il y a ceux qui boivent en portant l'eau à la bouche avec leurs mains. Et le texte précise même en la lapant avec la langue comme le chien. Et ils sont au nombre de 300. Bon, 300 de moins sur 10 000, c'est presque un moindre mal. Mais non, c'est pas dans ce sens-là que ça joue. Et Dieu dit à Gédéon au verset 7 et 8, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que tout le reste rentre à la maison. » Et Gédéon ne retient que ces 300 hommes. Donc 10 000 moins 9 700, ça fait bien 300, et il reste maintenant 300 hommes à Gédéon, 300 hommes pour combattre les 135 000 Madianites qui sont en face. Le rapport est passé de 1 pour 4 à 1 pour 13, et maintenant nous sommes à 1 pour 450. Un Israélite pour 450 Madianites. C'est un peu, pour vous donner une illustration, c'est un peu comme si Andorre ou le Liechtenstein déclaraient la guerre à la France. Je pense qu'on est à peu près dans quelque chose qui pourrait ressembler au rapport de force devant lequel nous nous trouvons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à vue humaine, ce n'est pas gagné d'avance. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et à ce stade, la question qui se pose et qui s'impose est celle-ci, mais pourquoi Dieu fait-il cela ? Mais pourquoi Dieu fait-il cela ? Son but est-il vraiment de sauver Israël ? Et la réponse à cette question, c'est Dieu lui-même qui nous la donne, ça ne vous a sans doute pas échappé à la lecture, au verset 2. Le Seigneur dit à Gédéon, ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Israël pourrait s'en vanter à mes dépens et dire, c'est ma propre force qui m'a sauvé. Quelle est la raison de cette réduction drastique des effectifs ? Israël pourrait tirer gloire de sa victoire. Il pourrait s'attribuer la victoire, s'en glorifier et oublier de rendre gloire à Dieu. Il y a deux facettes à cette raison évoquée. La première, elle concerne bien évidemment la gloire de Dieu. La gloire, le mérite de la victoire qui reviendrait à Dieu, mais qu'Israël s'attribuerait. Oui, Israël pourrait finir par penser que c'est sa propre force qui l'a sauvé, s'il n'y avait pas eu cette réduction d'effectifs. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ce que nous lisons dans le prophète Ésaïe au chapitre 42, verset 8. « Je suis le Seigneur, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. » La deuxième facette de la raison évoquée concerne Israël, et plus précisément son apprentissage de la confiance en Dieu, son apprentissage de la dépendance à Dieu. Et pour qu'Israël apprenne cela, il fallait qu'il soit faible. Il fallait qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible quant à l'origine de la victoire. Si Israël avait gagné avec un rapport de force de 1 pour 4, il aurait peut-être pu imaginer que c'est sa propre force qui l'a sauvé. Mais dans un rapport de 1 pour 450, la question ne se pose même pas. Au-delà de la possibilité de s'attribuer la gloire qui revient à Dieu, Israël avait besoin d'apprendre à dépendre entièrement de Dieu. Or, vous le savez comme moi, cet apprentissage n'est jamais facile. Le cœur humain, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, est foncièrement indépendant vis-à-vis de Dieu. Au cœur de la désobéissance d'Adam et Ève, il y avait le désir de s'affranchir de Dieu, de s'affranchir de ce que Dieu avait dit et de n'en faire qu'à leur guise, puisqu'ils allaient être comme des dieux. C'est ce que le serpent leur avait fait croire. Il est tellement facile et tellement naturel à notre cœur pécheur, de se passer de Dieu, de penser que nous pouvons y arriver par nous-mêmes, sans lui. Qu'il est facile de penser, quand nous réalisons quelque chose de bien à nos yeux pour le Seigneur, de penser que nous y sommes parvenus par nous-mêmes. Qu'il est facile d'oublier que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Que c'est lui qui nous équipe de ses dons pour que nous puissions le servir. Que c'est lui qui donne ce qu'il ordonne. Que c'est lui qui prépare des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Que c'est lui qui bénit l'ouvrage de nos mains et que c'est sa bénédiction et sa bénédiction seule qui enrichit vraiment. Chers amis, la grande leçon qu'Israël devait apprendre et que nous aussi nous devons apprendre et réapprendre sans cesse, c'est qu'au service du Seigneur, ce qui compte avant tout, c'est le Seigneur et sa force. Nos forces, nos compétences sont utiles, bien évidemment, et Dieu s'en sert. Mais ce qui est déterminant, spirituellement parlant, bien sûr, c'est le Seigneur. C'est sa force, c'est sa bénédiction. La grande leçon que Gédéon et ses troupes devaient apprendre, et nous aussi, c'est qu'il faut être faible pour être fort. Bien sûr, nous sommes ici dans le domaine du spirituel. Et par être faible, j'entends être conscient de sa faiblesse. Il faut être conscient de sa faiblesse pour pouvoir être fort. En effet, c'est au moment où je suis conscient de ma faiblesse que je vais pouvoir être fort parce que je vais me tourner vers le Seigneur, parce que je sais que je n'y arriverai pas par moi-même. Nous sommes ou nous devenons forts parce que dans la conscience de notre faiblesse, nous arrêtons de regarder à nous-mêmes et nous regardons au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur peut accomplir sa force au travers de notre faiblesse. C'est là que nous sommes forts dans notre faiblesse, forts de la force du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dira un jour, dans un autre contexte, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il commence en disant, enfin c'est Dieu qui lui parle et qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », ce que nous venons de dire. Et l'apôtre continue « Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi ». Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mes amis, l'apôtre Paul n'était pas masochiste, mais il avait compris cette leçon essentielle de la vie chrétienne. Cette leçon que Gédéon et ses hommes devaient apprendre au travers de cette réduction drastique des effectifs. C'est quand je suis faible que je suis fort ou que je peux devenir fort par le Seigneur. Quand je me pense fort, j'avance par moi-même, avec mes propres forces. Mais quand je me sais faible, alors j'avance en comptant sur le Seigneur. Et ça fait toute la différence. Chers amis, nous ne pouvons jamais être trop petits pour que le Seigneur se serve de nous. Mais par contre, nous pouvons être trop grands à nos yeux. Non pas pour que le Seigneur se serve, mais pour que nous n'allions pas vers lui pour qu'il se serve de nous. La réduction d'effectifs amène donc le peuple dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Et il me semble que c'est là l'enjeu essentiel de ce que Dieu est en train de faire dans notre texte. Et si c'est bien là l'enjeu essentiel de ce que Dieu fait, alors ça pourrait vouloir dire qu'il ne faut pas trop chercher à donner de sens aux moyens dont Dieu se sert pour faire le tri parmi les hommes de Gédéon. Je m'explique. Lors du premier tri, la raison est évidente. Dieu n'a gardé que ceux qui n'étaient pas remplis de crainte. Bon, ça peut se comprendre. Par contre, pour l'épisode au bord de l'eau, les choses sont nettement moins claires. Pourquoi est-ce que ce sont ceux qui ont bu dans leurs mains qui sont retenus et pas ceux qui se sont mis à genoux pour boire? Alors, il y a toutes sortes d'explications qui ont été avancées. Certains ont cherché à expliquer ce choix en disant que ceux qui ont bu dans leurs mains sont restés debout pour boire et que donc ils ont gardé leurs yeux fixés sur les ennemis qui étaient un petit peu plus loin en face d'eux. Ils sont donc restés vigilants, sur leur garde. À l'inverse, ceux qui se sont mis à genoux pour boire ont pour ce faire certainement baissé la tête pendant un certain temps. Ils ont donc quitté leurs ennemis des yeux, ils ont baissé leur garde. Et ce serait là, disent ces personnes, selon ce critère, c'est ce critère qui aurait présidé au choix des 300. C'est intéressant et je ne dis pas que ce n'est pas l'explication. C'est peut-être la bonne, peut-être qu'il y en a une autre. Pourtant, il me semble que chercher une raison au choix des 300, c'est passer à côté de l'essentiel, de l'enjeu essentiel que nous avons évoqué. Parce que cela reviendrait à dire que Dieu a choisi l'élite d'Israël. Et cela reviendrait à dire que pour la victoire, cette élite était nécessaire, que leurs compétences étaient déterminantes. Or, ce que Dieu a fait dans notre texte, même si à l'évidence il n'a pas retenu que des bras cassés, ce n'est pas de choisir une élite, mais de réduire les effectifs. C'est ça ce qu'il faut retenir dans notre texte, de réduire les effectifs afin que personne ne puisse douter que la victoire est venue de Dieu, afin que personne ne puisse s'attribuer le mérite de la victoire, afin que Gédéon et le peuple apprennent la confiance et la dépendance à Dieu. Je propose maintenant de considérer, pour terminer, la suite de notre texte, c'est les versets 9 à 15, ça va être donc notre dernier point, que j'ai intitulé « Un ultime encouragement ». Et je lis donc à partir du verset 9. « Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp, je te l'ai livré. Si tu as peur de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tu prendras courage. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de criquets. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Quand Gédéon arriva, un homme racontait un rêve à son compagnon. Il disait « J'ai fait un rêve. Un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est arrivé jusqu'à la tente et l'a heurtée. Elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. La tente est tombée. » Son compagnon répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. Puis il revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, le Seigneur vous a livré le camp de Madian. » Cette nuit-là, Gédéon dormait-il à point fermé? Ou alors était-il en train de compter les moutons quand Dieu lui a dit de se lever? S'il fallait choisir, j'opterais peut-être pour la deuxième option. Je ne suis pas sûr que Gédéon ait très bien dormi cette nuit-là. Si c'est le cas, s'il n'a pas bien dormi, c'est sans doute parce qu'il devait y avoir de la crainte, et on le comprend très facilement. Et voilà maintenant, après avoir réduit les 32 000 à 300, que Dieu l'envoie dans la gueule du loup, tout seul. Enfin, il peut prendre son serviteur Pourra, pour aller au camp de Madian. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp. » Et si tu as peur, tu peux prendre Pourra. Décidément, les voies de Dieu sont surprenantes. Alors, il y a trois choses que j'aimerais rapidement souligner ici. La première concerne le but de cette incursion nocturne dans le camp ennemi. Et ce but, il est énoncé au verset 11, « Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tu prendras courage. Tu prendras courage. » Et ce que Gédéon va entendre va effectivement l'encourager. quand un des Madianites va expliquer à son compagnon le rêve qu'il vient de faire. Verset 14, son compagnon répondit : « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. » Dieu envoie Gédéon et son serviteur Pourra dans le camp de Madian afin qu'ils prennent courage. Du courage, Gédéon en a manqué à plusieurs reprises, nous l'avons vu. Ce qui l'a amené à demander des signes à plusieurs reprises. Du courage, il allait en falloir pour combattre les 135 000 Madianites. La deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est bien évidemment en lien avec la première, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative cette fois-ci. Aucune demande de la part de Gédéon. Jusqu'ici, Gédéon avait tergiversé, avait fait des demandes à Dieu de signes pour confirmer tout ça. Et là, maintenant, c'est Dieu qui prend les devants pour rassurer son enfant, son serviteur. Et ce constat, personnellement, il me fait beaucoup de bien. Et il m'encourage vraiment, et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Parce que cela nous rappelle que Dieu nous connaît parfaitement et qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Cela nous rappelle aussi que Dieu ne nous envoie pas à son service sans nous donner ce dont nous avons besoin. Et cela nous rappelle que Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés, éprouvés. Vous savez qu'on peut traduire des deux manières ce texte du Nouveau Testament, que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec l'épreuve ou la tentation, il donne toujours le moyen pour que nous puissions la supporter. Chers amis, si nous sommes au service du Seigneur, et nous le sommes, si nous sommes dans la foi à Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de nous en faire, parce que Dieu pourvoit et pourvoira toujours à nos besoins pour le service. Quand cela sera nécessaire, il le fera comme il l'a fait ici pour Gédéon. Et la troisième remarque que je voudrais faire concerne la souveraineté de Dieu. Et ce qui est remarquable dans ce texte ici, c'est bien sûr le timing. Le timing de Dieu qui montre sa totale maîtrise des éléments, des événements, sa souveraineté totale, même sur ses ennemis. Cette souveraineté qui est visible de bien des manières dans notre texte. Dieu protège Gédéon et Pourra alors qu'il se jette dans la gueule du loup. Un garde aurait pu les entendre, ils auraient pu être saisis et mis à mort. Dieu qui suscite le rêve, ce rêve étrange, le rêve de ce Madianite, Dieu qui suscite aussi l'interprétation de son compagnon, et puis surtout, Dieu qui conduit Gédéon et Pourra au bon endroit, au bon moment, pour entendre le rêve et son explication. Notons que l'orge dont il est fait mention dans le rêve, c'était la nourriture des animaux, des bêtes. Et c'était sans doute la seule céréale que les Madianites laissaient aux Israélites quand ils faisaient leur razzia. Et donc c'est avec cette céréale, avec l'orge, que les Israélites faisaient leur pain. Et c'est ainsi que, d'une façon assez logique, le Madianite qui donne l'interprétation voit dans ce pain qui roule une image, une illustration d'Israël qui vient détruire le camp de Madian. Quel encouragement cela a dû être pour Gédéon d'entendre ce Madianite expliquer le rêve en disant que c'est l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël, et que Dieu a livré Madian et tout le camp aux mains des Israélites. Et nous sommes ici clairement au-delà de simples coïncidences. Nous sommes ici dans la manifestation de la souveraineté totale de Dieu sur toute chose, même ses ennemis. Et en entendant le rêve et son explication, Gédéon est encouragé. Sa foi est très certainement affermie et là, dans le camp, il se prosterne, il adore Dieu. Il est tellement saisi qu'il n'attend pas d'être de retour au campement pour le faire. Ensuite, nous lisons au verset 15 qu'il revient au camp et là, il sonne le lever pour aller cette fois-ci au combat parce que le Seigneur vous a livré le camp de Madian. Gédéon est maintenant plein de courage. C'était pour ça que Dieu l'a envoyé. Il est maintenant plein de courage. Dieu l'a équipé de tout ce dont il avait besoin. J'aimerais terminer en faisant un parallèle avec nous-mêmes et en faisant un parallèle avec les combats qui sont les nôtres, qui sont des combats spirituels. Bien évidemment, nous n'avons pas à combattre les Madianites, les Philistins ou qui que ce soit d'autre. Notre combat n'est pas spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et dans ce passage des Éphésiens, il va dire « En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, ça c'était dans la réalité de l'Ancien Testament, de ce peuple de l'Ancien Testament, mais nous luttons contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Il est question ici de réalité spirituelle. Il y a pour le chrétien, le disciple de Jésus, un combat à mener, qui est un combat spirituel. On pourrait le résumer un peu à l'emporte-pièce en disant que nous combattons contre le péché en particulier. Et pour ce faire, Dieu ne nous a pas laissés démunis, tout comme il n'a pas laissé Gédéon démuni. Et c'est ainsi que Paul va enchaîner dans la suite de ce verset, dans les chapitre 6 d'Éphésiens, en mentionnant toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition pour mener ce combat spirituel. Et nous n'avons pas le temps maintenant de rentrer dans le détail, et je vous invite à relire le texte si vous le souhaitez. Ce sont les versets 10 à 18 qui parlent de cela. Si Dieu nous appelle à le suivre et à le servir, s'il nous appelle à un combat spirituel, à combattre, à résister au péché, s'il nous appelle à la sainteté, il ne nous laisse pas sans ressources pour y parvenir. Et l'apôtre Pierre écrit au début de sa deuxième épître, 2 Pierre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout. » Ça, c'est le mot qu'il faut retenir ici. Tout, tout. Manque rien. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout reçu en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Dieu nous appelle, il nous équipe, il nous prépare et il nous envoie pour le servir. Et la victoire dans notre combat spirituel nous appartient tout comme elle appartenait à Gédéon, pour autant que nous comptions sur le Seigneur et que nous comptions sur tout ce qu'il a mis à notre disposition pour cela, et non pas sur nos forces. Chers amis, Dieu ne cherche pas des grands chrétiens, des chrétiens exceptionnels. Il cherche des chrétiens qui se confient en lui et en lui seul. Et c'est en faisant cela, en nous confiant en lui, que nous avançons par la foi et que nous remportons la victoire. Amen.